Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine. France et béatification de Jean-Paul II. France. L'église Sainte-Geneviève, terracotta. Et alors? Eh bien, en retournant cette jolie pièce en terre cuite, haute de 35 cm, créée par l'artiste hongroise Csusa Morvai, en 1988, on peut lire le texte suivant. Église martyre Sainte-Geneviève d'Argenteuil, construite en 1899. Église paroissiale florissante. Déclin suite au Concile Vatican II. Louée par l'évêché de Pontoise comme mosquée Kouba de 1973 à 1985, 12 ans. Vendu par ce même évêché en 1985 à la mairie communiste d'Argenteuil, détruite par le maire M. Mondargent le 4 novembre 1987 en dépit des prières des catholiques fidèles à la tradition, inspiratrice du comité Sainte-Geneviève qui se propose de la reconstruire sous le nouveau nom Sainte-Geneviève et Jeanne d'Arc. Fin de citation. Chers auditeurs, cette pièce d'art est en fait une tirelire pour recevoir les oboles pour cette reconstruction. Ajoutons que ce comité avait réussi à collectionner 230 000 francs lourds, pas assez pour construire une nouvelle église, mais assez pour agrandir et embellir deux chapelles de la tradition dans la banlieue nord de l'Île-de-France. Saint-Mathias à Pontoise et Sainte-Honorine à Conflans-Sainte-Honorine. À noter également que le comité Sainte-Geneviève a pu maintenir à Argenteuil le souvenir de ce vestige de son patrimoine par des processions par le centre-ville le jour anniversaire de sa destruction pendant 7 ans, sous la banderole « Pardon Seigneur pour l'Église abattue ». Église avec un E capital. Souvenir d'une époque héroïque, déjà oubliée après seulement 24 ans. Dernière remarque, le premier qui enverra un don pour la mission Fraternité Saint-Pudis en Suède, abbé Sten Sandmark, d'au moins 100 euros, recevra cette pièce en terracotta, dernière d'une série de 17 exemplaires, en remerciement. Adressez le chèque, s'il vous plaît, à UNEC, boîte postale 70114, 95210 Saint-Gratien, avec la mention Mission Suède. PS, l'association UNEC, fondée en 1989, est le successeur du comité Sainte-Geneviève. Béatification de Jean-Paul II. Cet acte pontifical, même s'il n'est pas en soi-même infaillible comme nous l'avons déjà dit, tant qu'il n'y a pas de canonisation, a créé pourtant le désarroi dans le monde catholique, rouvrant abruptement la plaie qui le déchire depuis plusieurs dizaines d'années, la plaie de l'abîme qui sépare de plus en plus la partie totalement fidèle à la tradition reçue depuis les apôtres et la partie qui s'extasie santo subito pour se cacher les yeux devant les églises et les séminaires vidés par eux-mêmes. En témoignage, voici quelques lignes d'une lettre reçue ce matin par notre rédaction, venant d'une ancienne protestante qui s'est convertie à l'Église catholique il y a 50 ans. Je cite, « Voilà, factum est. Juste avant cette béatification du pape de l'amour, j'ai entendu de bon matin à France Info une interview avec Mgr Barbarin, cardinal-archevêque de Lyon, commentant cet heureux événement en soulignant l'unanimité qui règne au sujet de Jean-Paul II, avec une légère allusion sur son vivant ou ses tendances traditionnalisantes, sikh, et son refus de la pilule avait été déploré par nombre de gens. Mais heureusement maintenant tout est juste, lumineux et clair, commente le cardinal. Après la béatification, j'ai entendu parler, toujours à France Info, d'un communiqué du Vatican annonçant que la canonisation ne se fera pas attendre, mais pourra de fait avoir lieu dès la constatation du miracle nécessaire pour cette dernière étape. Et l'ambiance de la phrase m'a fait penser qu'ils savent déjà comment ils vont faire. Et d'ailleurs, pourquoi s'en priveraient-ils, vu que ça a passé cette fois, malgré des avis apparemment sérieux, comme quoi la miraculée n'aurait jamais passé le filtre du bureau médical de Lourdes. Quoi qu'il en soit, cette annonce verrouille d'avance le débat, réduisant les contestations potentielles à des propos pouvant être dénoncés comme scandale portant atteinte à la paix d'âme du commun des mortels fidèles catholiques. Conclusion. Nous citons toujours cette lettre. Avec ce coup de déclarer bienheureux et question de temps bientôt saint, le pape de l'amour et du renouveau catholique, il y aura désormais continuité dans la tête des gens entre le catholicisme d'avant Vatican II et celui qu'il n'y aura plus besoin d'appeler conciliaire, puisque catholique suffira désormais. Le poids de l'autorité pontificale et des médias, ainsi que l'ignorance incommensurable des catholiques d'aujourd'hui, faisant le reste. Pourtant, il suffit d'un catéchisme de Saint Pie X et de deux yeux et oreilles pour se rendre compte que les guides spirituels officiels de l'Église indiquent deux chemins opposés pour le ciel. Un chemin très large, par exemple l'avenue Via della Reconciliazione menant à Saint-Pierre à Rome, et l'autre très étroit, par exemple le chemin de croix dans les ruelles de Jérusalem. En ce qui me concerne, j'ai déjà choisi entre ces deux chemins il y a un demi-siècle, et si Dieu le veut, je n'y changerai rien, car pour moi, c'est gros comme une maison. Je m'explique. En juin 1960, l'Église enseignante, représentée par Mgr l'archevêque de Reims, m'a accepté comme membre de l'Église enseignée, à la condition, divinement inspirée, que j'abjure l'hérésie de Luther, ce que j'ai fait. Maintenant, en mai 2011, les représentants légaux de l'Église enseignante donnent comme modèle, soi-disant divinement approuvé, l'organisateur d'assises, c'est-à-dire un représentant d'idées qui dépasse largement l'hérésie de Luther en hétérodoxie et qui sont d'autant plus contraires à ce que j'ai fait serment de défendre au minimum dans ma propre âme et si possible dans celle des miens. Autrement dit, voici deux thèses sur la vie et l'éternité, soi-disant divinement inspirées, l'une comme l'autre, mais l'une disant qu'au moins techniquement ceux qui suivent Luther vont se damner, et l'autre disant que ce même Luther peut au contraire être un bon guide vers le ciel. Elles sont évidemment incompatibles, ce qui implique qu'une seule est divine et que celle-là seule conduit vers le ciel. Et cela implique que le bon choix est forcément celle qui était enseignée depuis 20 siècles et avait abondamment démontré sa sainteté quand je suis devenu catholique, tandis que la religion contraire, réformée, n'est-ce pas, et qui n'existerait pas sans l'original, était encore excommuniée à cette époque et ne peut en aucun cas prévaloir 50 ans plus tard au détriment de 20 siècles de sainteté. Cependant, continue la lettre, il ne faut jamais perdre de vue que notre Seigneur nous a prévenus qu'il permettrait non seulement à des faux prophètes de tenter de séduire les membres du troupeau au fil des siècles, mais que vers la fin, le troupeau se laisse même séduire pratiquement en entier. En ce qui me concerne, doctrinalement, je choisis donc de rester fidèle à la religion qui a été enseignée par les papes de Saint-Pierre à Pie XII et de refuser celle des papes de Jean 23 à Benoît 16. Et heureusement, il est facile de s'y retrouver, puisque tout ce qui subsiste d'orthodoxe et donc de précieux dans l'enseignement de ces papes conciliaires se trouve déjà en version originale et sans mélange chez les prédécesseurs, ce qui me dispense d'écouter les dix papes conciliaires. En fait, tout ce qu'ils ajoutent à la doctrine explicitée par Saint Pie V et Saint Pie X peut sans dommage pour mon âme être laissé de côté comme suspecte de mundophilie. Je m'estime inexpugnable en comptant sur la position tridentine, puisqu'il existe une surabondance de preuves comme quoi le christianisme tridentin est la vraie religion, même si, et depuis hier plus que jamais, elle n'est plus qu'un sentier étroit et embroussaillé à côté de l'autostrade du monde. P.S., continue la lettre, quant à l'objection « Mais Dieu ne peut pas permettre cela », c'est-à-dire que les chefs de l'Église trahissent notre Seigneur Jésus-Christ, je vois comme réponse obvie qu'il peut plausiblement le permettre. Il a bel et bien permis la trahison de Judas et le reniement de Pierre et la fuite des autres apôtres, sauf un, quand il s'est agi de son corps physique. Alors pourquoi ne permettrait-il pas maintenant les fuites, reniements et trahisons de son corps mystique par les successeurs des apôtres, également sauf un ? Fin de citation. Chers auditeurs, c'est grave. Je vous salue et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Au revoir, chers auditeurs.